Ça va dans la dynamique, je crois, de ce qu'on fait ce matin. Comment garder son tranchant, votre tranchant? Quand on parle de votre tranchant, c'est votre capacité de rester rempli de zèle, d'avoir une foi qui est dynamique, d'être quelqu'un qui amène une influence qui manifeste le royaume de Dieu. Quand il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que nul périsse », Jésus est arrivé ici, animé de l'amour du Père, et il y avait tout un projet. Il y avait tout un plan. Il y avait tout un concept dans lequel l'amour de Dieu lui donnait suffisamment de travail pour travailler pour l'éternité même. Il y avait une vision de comment faire les choses. Il voyait tout son environnement à travers le regard du Père. Et il était tranchant pour séparer les ténèbres de la lumière. Il était tranchant pour percer dans les lieux où il y avait de l'injustice, où les gens étaient liés, captifs. Il était tranchant pour couper les liens, les liens de captivité. Et lorsque Jésus dit « Il est avantageux que je m'en aille, parce que l'esprit que je vais vous envoyer va faire en sorte que vous allez continuer mon œuvre. » Et il faut avoir ce tranchant. Peut-être dans le passé, on avait un tranchant, des fois, qui était très radical, peut-être même animé d'une irritation, parce qu'on ne saisissait pas toujours la notion de l'amour de Dieu, puis on avait un tranchant confrontant. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur se révèle à nous pour dire l'amour est beaucoup plus puissant que la différence. L'amour unit. Il faut juste que tu amènes les bons paramètres pour permettre aux gens de connaître cette unité qui fait qu'ils peuvent adhérer. Et on peut être tranchant dans pratiquement tous les environnements, pas pratiquement dans tous les environnements. On peut apprendre à faire la différence, peu importe où ce qu'on est, avec qui qu'on est. Il n'y a aucun lieu qui est inférieur, qui est supérieur, ou en tout cas, il n'y a aucun lieu qui est supérieur au royaume. Le royaume est supérieur à tout lieu. Donc, on a la possibilité d'être tranchant dans peu importe les circonstances. Et c'est cette notion qui est importante de s'encourager. Il faut s'édifier, il faut s'aiguiser les uns les autres pour nous permettre de rester tranchants. Dans Matthieu 5, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors ou foulé aux pieds par les hommes. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que nos vies sont assez brillantes pour inspirer ceux qui nous entourent? Est-ce que lorsque les gens nous regardent, ils sont inspirés par ce qu'on dit et par ce qu'on fait? Est-ce que notre saveur rafraîchit l'environnement dans lequel on est? Est-ce que les gens sont rafraîchis par notre présence? Parce qu'on a toujours une parole pour ramener l'espérance, l'espoir. Une parole qui fait que les gens qui se sentent rejetés se sentent aimés. Une parole qui fait que les gens qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, on leur donne encore de l'espoir. On peut connaître beaucoup de choses et avoir beaucoup de connaissances bibliques, mais être amer et irrité. On peut avoir beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience dans beaucoup de choses, mais ne pas être tranchant pour l'amour de Dieu. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont comme émoussés, mais on a un discours qui parle de Dieu, mais on a un témoignage de vie qui ne représente pas son cœur. Et on s'enlise parfois dans des statu quo religieux et on finit par croire que c'est le monde qui est trop dur. Quand en fait, c'est notre cœur. qui est plus rendu, qui se laisse plus travailler par l'amour de Dieu. Il y a tellement de beaux témoignages qui se passent ces temps-ci. Là où on est, là est le royaume. Parce qu'on manifeste l'amour de Dieu à travers nos vies. Et ça prend la foi. La foi, c'est d'entendre ce que Dieu veut accomplir. Et c'est d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et si on n'entend pas la voix de Dieu, parce qu'on est trop centré sur nos blessures, trop centré sur nos insatisfactions, ben on n'entend pas le cœur du Père. Et on continue à répondre à nos irritations au lieu de répondre aux révélations que Dieu nous donne. Garder son tranchant, c'est de rester dans une place où tu ne fais pas seulement avoir des pensées différentes, c'est que tu fais la différence. Tu es en train de percer les endroits qui semblent être clos. Tu amènes une atmosphère différente. Et c'est merveilleux. Votre plus grand pouvoir, ce n'est pas de venir à l'Église, c'est d'amener l'Église où ce que vous êtes. Cette semaine, il y avait un père de famille qui m'a écrit, il fait partie de ma cellule, et il est excité parce qu'on prie pour nos enfants. On prie pour que nos enfants rentrent dans la destinée de l'appel de Dieu pour leur vie. Il me disait, cette semaine, j'ai prié pour ma fille. Ma fille a fait la prière du salut avec moi et son copain. Et on était excités. Un autre couple m'appelait pour me dire, écoute, on a des amis, puis ça fait longtemps qu'on prie pour eux pour qu'ils puissent se marier. Puis il y a eu des cœurs ouverts pour que ces gens disent, on a envie de se mettre en accord avec le ciel. On a envie de voir ce que Dieu pourrait faire dans notre couple. Amen. Ma coiffeuse, on était assis cette semaine, elle est en train de me coiffer, et pendant qu'on était en train de parler, je ne sais pas pourquoi, elle oublie tout le temps que je suis pasteur. Enfin, j'y rappelle tout le temps. Elle dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis là, j'ai dit, mais je suis pasteur. Oui, où ça? J'ai dit, bien, juste ici à côté. Ah, OK. Puis elle commence à me compter, elle m'ouvre sa vie, puis elle commence à me parler, puis ce coup-là, elle a vraiment commencé à me descendre par rapport à sa foi. Et je l'écoutais, et durant la conversation, je faisais juste lui dire comment que Dieu avait des projets de bonheur pour sa vie. Et comment que Dieu prenait à cœur toute sa vie. Puis on a eu des conversations, à la fin de la conversation, on était là, et je sentais tellement qu'elle avait besoin de sentir cet amour-là, que je me suis retenu de ne pas y faire un câlin avant de partir. Puis je me suis dit, écoute, je sais pas, mais il y avait, puis elle me dit, j'aimerais ça aller à ton église. J'aimerais ça aller entendre ce qui se dit là-bas. Et je veux dire, ce n'était pas un grand plan d'évangélisation, là. J'ai seulement écouté. Puis je me suis mis à sa place et j'ai senti sa faim et soif. Et je me suis dit, je te comprends. Moi aussi, j'ai envie que le ciel me désaltère. J'ai envie d'être désaltéré de l'amour de Dieu. J'ai envie de voir Dieu agir dans ma vie. J'ai envie de voir sa faveur. Puis j'y comptais de dire, écoute, ce que tu ressens, l'humanité le ressent. Garder le tranchant dans votre vie, c'est de garder la détermination de l'appel que Dieu nous a donné. Vous avez tous reçu l'appel. Lorsque vous avez dit oui à Jésus, vous avez décidé de marcher comme lui marchait. Vous avez tous adhéré à marcher selon ses préceptes. Et parfois, on trouve ça difficile. Parce que ça va bien quand que Dieu ouvre les portes de la bénédiction, mais quand Dieu dit, est-ce que tu vas devenir une bénédiction dans la malédiction? Là, c'est plus difficile. Comment je peux faire pour aimer celui qui me pousse, puis celui qui me confronte, puis celui qui me rejette? Comment je peux faire pour être soumis à un patron qui tente de m'abuser par tous les moyens imaginables? Comment je peux faire pour être aimant avec une compagne ou un compagnon qui n'arrête pas de tout le temps, tu sais, me renoter mes fautes? Comment je peux faire pour faire en sorte que mes enfants puissent sentir que je les aime, puis qu'on puisse avoir une harmonie quand il y a seulement de la chicane, puis des reproches puis des griefs? Et le Seigneur dit, garde ton tranchant. Garde ton tranchant. La confrontation fait partie de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il faut garder son tranchant. Si vous acceptez que votre vie soit émoussée, vous allez avoir de la difficulté à faire des percées. vous avez une responsabilité, c'est de conserver votre tranchant. Vous allez rencontrer de la résistance. Dites à votre personne à côté de vous autres, dites, on va rencontrer de la résistance. On va rencontrer de la résistance. Parce que vous êtes des gens appelés pour être savoureux. Et vous êtes des gens appelés pour être inspirants. Dans un monde qui est désabusé, qui n'a plus de saveur, qui sont irrités, qui sont en colère, remplis d'amertume. Donc, on fait affaire avec des gens qui sont eux-mêmes difficiles. Et si on veut amener une différence, il faut que nos vies soient facilitantes pour des gens qui vivent des choses difficiles. Si c'est leur comportement qui finissent par avoir le dessus sur nos comportements, c'est les ténèbres qui gagnent sur la lumière. Mais ce n'est pas possible. Les ténèbres ne peuvent pas gagner sur la lumière. Physiquement, c'est impossible. La lumière, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Les ténèbres n'existent pas, c'est une absence. Ce qui existe, c'est l'énergie, c'est la notion d'énergie qui existe. La lumière est énergie. Je ne vais pas rentrer dans New Age. Je vais juste expliquer un concept physique. Mais lorsque les ténèbres prennent le dessus sur nous, c'est là qu'on réalise qu'on n'est peut-être pas tranchant. On est peut-être émoussé. Il y a peut-être des choses dans nos vies qui ont pris place, qui ne devraient pas prendre place. Là, ça change la vie chrétienne. Quand tu sors de ton lieu de culte, puis tu sors de ton étude, tu n'es pas confronté. C'est quand tu arrives dans le vrai monde que tu es confronté. C'est de mettre en pratique ce que tu as pris comme connaissance le matin, et c'est ça qui peut t'aiguiser. Mais si tu n'acceptes pas de vivre dans la résistance, de faire face à la résistance et d'être confronté à la résistance, tu ne seras jamais vraiment une épée qui va trancher quoi que ce soit. Tu vas rester dans le fourreau, puis tu vas te balader, tu vas parader, mais tu n'auras pas grand victoire. Vous savez, le monde a besoin de voir des fils et des filles de Dieu qui marchent dans leur environnement. Le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu, l'amour du Père, manifesté en nous par Jésus-Christ. Ils ont besoin de connaître les choses qu'ils n'ont pas encore entendues. Ils ont besoin de voir les choses qu'ils n'ont pas encore vues. Le monde ne révèle pas ce qu'il y a dans le royaume de Dieu, c'est les fils et les filles de Dieu qui révèlent ce qu'il y a dans le royaume. Le Saint-Jean sur Richelieu pleure en ce moment que les fils de Dieu ne viennent pas à leur rencontre. On les entend pleurer à travers les couples qui se séparent, à travers les chicanes de famille, à travers les gens qui sont pris avec toutes sortes d'addictions. Ils sont malheureux. Mais il n'y a pas personne qui va à leur rencontre. On veut voir notre ville changer. Il faut qu'on y aille faire le changement. Edmund Burke disait, est-ce que tu veux aller à l'autre à 7 ans, s'il te plaît? Disait, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Cette personne-là écrit ça en 1700 quelque, c'est un homme politique. Après avoir vu toute la corruption, puis il disait, si les hommes pourraient se lever pour le bien, au lieu de tenter de tout le temps aller chercher les choses qui amènent à ce que la corruption rentre dans notre pays. Dieu nous a mis des projets merveilleux. J'ai entendu de beaucoup de par votre vie, votre témoignage, quand que Dieu vous a appelé. Vous étiez remplis de zèle et j'aime me tenir avec les nouveaux chrétiens, les bébés spirituels. Il y a une vie là-dedans. Et c'est dérangeant parce qu'eux autres, écoute, n'importe quoi, c'est tout du nouveau. Ils sont tous excités, puis tout est fun, puis Dieu est tellement grand, puis l'amour de Dieu est tellement, tellement grand, puis les chrétiens sont tellement beaux, puis sont tellement fins. Tu ne dis pas que ça va peut-être m'amener, il va peut-être avoir quelque chose qui va être. Tu es juste là, tu dis ah oui, ah oui, ah oui. Puis tu veux juste pas péter sa balloune, mais tu dis, ah, Tu sais, continue, tu sais, c'est bon. Puis là, ben, tu te mets à quatre pattes avec eux à terre, puis tu t'amuses, puis tu te mets, puis tu prends de cette connexion-là. Mais, ah, c'est beau de les voir s'illuminer devant les choses que nous qui sont rendues banales. Hein? Un biscuit. Écoute, un arc-en-ciel, une mouche, un papillon, n'importe quoi, une chenille. Écoute, pour eux autres, tout est nouveau. Il faut garder le tranchant de rester émerveillé. Si vous voulez être inspirant, il faut que vous soyez vous-même émerveillé. Est-ce que votre vie, est-ce qu'il y a du wow dans votre vie? Hein? Est-ce qu'il y a du wow dans votre vie? Est-ce que vous cherchez le wow? Vous cherchez, ah, c'est pas juste. Pourquoi il y a ça? Pourquoi que ci? Pourquoi que ça? Il y a une attitude de cœur pour rester tranchant. Il y a une attitude de cœur pour garder les yeux fixés sur les choses qui nous émerveillent. Les choses anciennes, l'ancienneté va amener les choses à devenir prévisibles. Donc, il faut que vous gardiez à l'esprit que tout ce que vous vivez, de tout ce qui est nouveau, va devenir ancien. C'est pas mauvais. Il y a certaines choses que c'est nouveau puis ça vient du royaume de Dieu et ces choses-là vont devenir une tradition. Vous devez les conserver et les mettre en tradition. Notre famille, on a beaucoup de traditions. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait nécessairement vraiment beaucoup de notre famille d'origine, mais nous, on a compris que les traditions, c'est une façon de conserver ce qu'on a conquéri dans nos guerres. Fait qu'on a des traditions de couple. On a des traditions dans lesquelles, à chaque année, on part, moi puis Sonia. Puis on dit, OK, dans telle date, ça veut dire peut-être 3-4 mois avant, on le prend. Je sais que ça peut l'air un peu, tu sais, tu planifies des vacances 4-5 mois avant. Mais nous autres, ça nous excite. Parce qu'on en parle pendant 4-5 mois. C'est comme si on le visitait tout le temps. Mais on a hâte, puis on donne le coup, puis on est motivé à dire, OK, là, il y a un temps pour travailler, il faut qu'on travaille, parce que là, on va avoir un temps de repos. Et on cultive des traditions. Nos enfants, on a plein de traditions. Des films en particulier qu'on réécoute à chaque année. Vous allez dire, ce n'est pas des films chrétiens, le Grinch. On écoute le Grinch, la guerre des trucs. Mais ces films-là, c'est pas tant l'histoire parce qu'on la connaît, mais c'est l'ambiance qu'on a, nous, ensemble. Là, il y a tout un setup. C'est quand on écoute le film. Y a-t-il des chips? Le mou est à l'honneur. Coton ouaté. Puis écoute, il faut qu'on soit confortable. On va chercher les oreillers. Écoute, on vide la literie. Et tout est dans le salon. C'est comme c'est comme les cabanes qu'on faisait quand on était jeune. Puis là, tout le monde est caché. On est sur le divan qui a de la place pour deux, mais on se met six. Puis on est collé, on est comme un gros nœud, puis on écoute. Et on a du plaisir. Et ça, c'est des traditions. Mes enfants, ils ne sont plus des enfants, là, ils ont 20 ans. Mais c'est eux qui se battent. Quand est-ce? C'est quand? C'est quand qu'on rentre dans cette tradition-là? Pourquoi? Parce que les traditions nous permettent de rester guisés. Ces traditions-là nous permettent de garder le tranchant de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et c'est pour ça que ces traditions-là deviennent importantes. Ils nous rappellent qu'on a de l'importance les uns pour les autres. Et on se doit de s'aimer d'une façon que tout le monde répond. Les différentes s'aiment d'une façon qui est particulière. Il y a quelque chose que lorsque tu fais partie de ce clan-là, qui fait que tu es tranchant. Tu n'es pas bien quand tu es émoussé. Parce que tu es coupé de tout part, de tout côté, de gens qui t'incivent parce qu'ils veulent que tu deviennes tranchant. Mais il y a une dynamique. Le tranchant, ce n'est pas une confrontation. Le tranchant, c'est ce qui amène l'amour de Dieu dans une réalité. Une des choses qui fait qu'on peut accepter de vivre de façon émoussée, c'est lorsqu'on commence à avoir des accommodements ou des compromis. Et ça, c'est un des premiers, avant de rentrer dans mes points, c'est un des éléments que je veux vous amener. L'accommodement, c'est quelque chose qui émousse. Émousser, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait que tu es plus tranchant. On n'est pas là pour négocier nos propres règles. On est là pour emmener le royaume. Le royaume a une façon d'élever les gens à un niveau supérieur à ce qu'ils sont. Les accommodements, c'est une façon de vivre dans la médiocrité. Il faut faire attention quand on dit « Oh, on va s'accepter, je t'accepte quoi au juste? » Quand on dit « Ouais, mais moi, mon mari, il fait ça de même, puis moi, je fais ça de même, puis on ne s'entend pas, fait qu'on a fait un accommodement pour dire « Fais ça sur ton bord. » De quoi t'acceptes au juste? Cette personne-là vit à un niveau inférieur au royaume et t'accepte quoi au juste? Je ne te dis pas d'hérité puis commencer à le juger, c'est pas ça que je vous dis. Mais qu'est-ce que vous acceptez qui fait que vous ne regardez plus la situation en fonction du royaume pour amener la vérité? Pourquoi? C'est souvent un élément important. J'écoute souvent les gens de dire « Ouais, mais il faut tout qu'on s'accepte. » T'acceptes quoi? T'acceptes que les gens vivent à un niveau inférieur du royaume? Est-ce que tu les aimes vraiment? En sachant que le royaume est venu pour qu'ils ne périssent point. Tu acceptes que leur vie soit privée de toutes les bénédictions et de toutes les promesses que Dieu a pour eux? Peut-être que tu ne sais pas comment l'amener. Ça, c'est peut-être un élément. Peut-être que ça te phrase, puis dans le fond, tu ne veux pas rentrer en confrontation, fait que tu dis, on va garder le silence mutuel. C'est peut-être ça, je peux le comprendre. Mais de refuser de laisser le royaume rentrer dans la situation, c'est là où, quelque part, c'est l'inactivité des hommes de bien qui fait que le mal persiste. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il faut qu'on commence à devenir wise. Je vais vous le dire, il faut qu'on commence à devenir intelligent. Et pour ça, je vous le dis, là, vous pouvez vous regarder le nombril, là, il n'y a pas grand sagesse qui va venir de là, mais il est temps de se mettre à l'œuvre pour connaître ce que la vérité, ce que la parole nous dit. La parole nous enseigne tellement de choses incroyables, des vérités tellement puissantes. Il faut apprendre à comprendre ce qu'on lit. Vous savez, dans votre vie, être émoussé, c'est lorsque vous arrêtez de croire que vous êtes appelé. Lorsque vous arrêtez de croire que vous êtes la solution au problème. Et il y a une histoire dans la parole de Dieu que j'aime particulièrement. Quand je l'ai entendue la première fois, je me disais, aïe, je ne savais même pas qu'il y avait cette dimension-là. C'est l'histoire d'Abraham, le témoignage d'Abraham. J'aime cette histoire. Je crois que c'est l'histoire de chacun de nous. On peut le lire, je vais commencer à lire, c'est dans Genèse 11, verset 31. C'est la fin de Genèse 11, puis le début de Genèse 12, chapitre 12. Térakh, père d'Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et sortir ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Première chose pour les gens qui connaissent leur parole, on a souvent l'impression que c'est Abraham qui a été appelé à Canaan. Mais c'est Térakh qui a été l'idée de se rendre à Canaan. Canaan était un pays connu de tous. Un pays de géants, de villes fortifiées, mais où coule le lait et le miel. Et Térakh avait un goût de miel et de lait qui lui tenait dans la gorge, puis il dit, je ne suis pas rassasié ici. À Ur, il n'y a pas ce qu'il y a à Canaan. Et il a décidé de prendre sa famille. Ils habitèrent Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan, où ils habitèrent. Les jours de Térakh furent de 250 ans et Térakh mourut à Charan. Je vais y revenir. Genèse 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et la terre, c'était à Canaan. Térakh, je crois que Dieu avait mis un projet dans son cœur. On dit que c'était un homme qui ne suivait pas Dieu. On peut le lire dans Josué, l'autre verset, tu peux le mettre. C'est une information que Josué nous donne, que Térakh et sa famille et Abraham servaient d'autres dieux. C'était des gens qui n'avaient pas une croyance en Dieu parce que Dieu ne s'était pas manifesté encore à Abraham. Mais il y avait quand même une spiritualité. Il y avait une quête de quelque chose, d'une dimension éternelle. Il y avait une quête pour les cieux, pour le monde spirituel. Et vous savez, Dieu n'est pas si religieux que ça. Lui, il ne vaut pas à travailler. Lui, il n'y a pas une cause qui définit nos doctrines. Lui, il s'adresse à ceux qui cherchent sa face, à ceux qui poursuivent le ciel. Et Térakh a eu ce projet d'aller à Canaan, de partir de eux à Canaan. Mais quand il est arrivé à Charan, il a pris une pause. Le chemin à parcourir entre Ur et Canaan est de 5500 kilomètres. Ça, c'est de partir de Gaspésie pour se rendre à Vancouver. Avec des femmes, des enfants, du gros et du petit bétail à pied. L'idée, le projet, là, il était plus qu'ambitieux. Là. Il était de dire, « Aïe, 5500 kilomètres, combien d'années on va se rendre là? Tu avais prévu de te rendre là dans quelle année ou dans quelle décennie? » Ça veut dire qu'à tous les matins, il va falloir plier la tente pour repartir, s'installer, monter à tente, plier la tente. Écoute, on va dormir dans un fossé parce qu'à un moment donné, tu t'avances pas, là. Puis en plus, il faut que le poule suive. Puis l'enfant de 5 ans suit. On ne peut pas les brûler à marcher pendant un mois de temps, 30 km par jour. Hein, Térakh? Ça va-tu? Mais le père, Térakh, il dit, sur le bord du feu, il devait être là, puis il dit, vous n'avez aucune idée de ce que c'est ce pays-là. Ça coule le lait et le miel. Il y a les grappes de raisin sont si grandes que ça prend deux hommes pour t'y transporter. C'est incroyable. Tout est surdimensionné. On prend un raisin et on le mange pendant une semaine. S'il y a du lait, c'est parce que tout le bétail se reproduit d'une façon phénoménale. Tout prospère là-bas. Tout prospère. Là, les gens étaient là, oubliaient le 550 km, oubliaient de dormir dans un fossé. Puis ils disaient, ouais, moi aussi, me semble que ça sent le miel, me semble que ça goûte le lait. Il y a quelque chose. Puis il a su entraîner. Il était rempli de saveurs. Il était inspirant. Parce que sa quête est inspirante. On ne sait pas, je ne connais pas les détails de son chemin, mais quand il est arrivé à Charan, c'était à peu près à mi-chemin, il a fait à peu près 3000 km. Et à Charan, il y a quelque chose qui a changé. Ils se sont assis sur le bord du feu un soir, on n'entendait presque plus parler, ou plus pas tout parler de Canaan. J'imagine qu'on devait parler de tous les problèmes qu'on avait vécu aujourd'hui. C'est fatigant, ça, il faut contourner encore cette colline-là, puis aller là, puis là, il va mouiller de main, puis là, si, puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'imagine que sur le bord du feu, soit après soir, la critique augmentait, jusqu'à temps qu'à un moment donné qu'on dit, on est installé, on va prendre un break. Et les semaines sont devenues des mois et les mois des années, à un point tel, puisqu'on ne parlait plus de Canaan, mais que maintenant, Dieu dit, tu es tellement bien installé que c'est rendu la maison de ton père ne bougera plus de là. Mais toi, il faut que tu poursuis ton rêve. Il faut que tu poursuis le rêve que je t'ai donné. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend là-bas. La question, si tu veux rester aiguisé, il ne faut pas que tu restes à Charan. Vous savez ce que ça veut dire? La racine du mot Charan veut dire être brûlé, être enragé, être sec. La racine de ce mot-là veut dire c'était la région de Charan, était la région où les choses étaient brûlées à sec. Et c'était une belle représentation pour démontrer le cœur de ceux qui avaient parti tellement émerveillés d'un grand projet pour finir. À cause de la résistance, à cause des difficultés, ils sont devenus secs, enragés, irrités. Puis ils ont décidé de camper sur leur irritation et sur leur vie sec. Je pense que rendu là, quand quelqu'un disait, il n'y avait pas quelque chose, quelqu'un qui parlait de Canaan, ah, toi, t'es toi. On est tanné de marcher. Et il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que si vous voulez garder votre tranchant, Il faut que vous dominiez, il faut que vous percez à travers les charrettes. Trois choses qui vous permettent de sortir de ces lieux secs et de garder votre tranchant. Trois choses. Veillez sur vos relations. Deuxième, l'entraînement est un mode de vie. Et le troisième, gardez l'esprit du précurseur. Premier point, veillez sur vos relations. Tu me suis-tu? Ah, merveilleux. Les gens avec qui vous partagez votre vie ont une influence sur votre destinée. Les gens qui partagent votre vie ont une influence sur votre destinée. Paul comprenait ce principe-là, il enseignait les Corinthiens dans 15:33 qui dit « Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ah, il est juste amusant. Il n'y a pas de trouble. La question, c'est de dire, il y a trois sortes de personnes, il y a trois dans votre environnement. Vous pouvez laisser de la place à trois types de personnes. Ceux qui vont vous propulser, ceux qui vont vous ralentir et ceux qui vont vous nuire. Dans vos relations, vous devez savoir qui vous entoure si vous voulez vous permettre de ne pas vous enliser dans les lieux charrants, dans les lieux secs. Il y en a qui ne vont juste pas nécessairement vous empêcher, ils vont juste vous détourner de votre destinée. Ils vont seulement vous faire en sorte que vous soyez constamment amener à penser autrement ou à penser pour rêver pour un autre lieu. Dans Amos 3:3 qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? » Et c'est important et c'est quelque chose qu'on apprend au fil des années, je vous dirais, au fil de la maturité que Dieu nous donne. Que je dois avoir, je dois croire à ce que Dieu m'a donné, à l'appel que Dieu a sur ma vie. Si moi je crois pour qui, il va y croire. Si moi, je ne prends pas la responsabilité de conserver l'appel que Dieu m'a donné, à qui je peux remettre cette responsabilité-là? Au pasteur? Non. C'est votre responsabilité parce que celui qui vous a appelé va vous équiper. Et ce n'est pas le pasteur qui vous a appelé. Et ce n'est pas encore les gens qui vous entourent. C'est Christ qui vous a appelé. Vous savez, même Jésus avait compris ce principe. Jésus ne se laissait pas entourer par n'importe qui. Pourtant, s'il y a bien quelqu'un qu'on peut connaître qui était comme blindé à l'intérieur, c'est bien lui, mais il ne permettait pas n'importe qui à rentrer dans son cercle d'intimité. Est-ce que tu peux aller à l'autre diapo? Il va se défiler. Jésus était le centre parce qu'il devait obéir premièrement à son Père. La personne la plus importante dans son esprit était la volonté de son Père. Et après ça, il faut qu'il rentre. Pour être capable de marcher et de marcher pour étendre le royaume, il devait se transmettre dans quelqu'un. Qui a laissé rentrer? Jean. Pourquoi Jean a été plus près que tous les autres? Parce que Jean était plus près du but que Jésus suivait que tous les autres. Parce que Jean a été reconnu comme étant celui qui cherchait la chose la plus importante. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est l'apôtre de l'amour. Jean, ce qu'il cherchait et la façon qu'il rentrait en relation avec Jésus était pour connaître l'amour du cœur, connaître le cœur du Père. Et pour Jésus, ce n'était pas quelque chose qui le détournait de sa mission. Ensuite, deux autres ont rentré un peu plus près, c'est Pierre et Jacques. C'était des gens significatifs qui étaient importants, mais ces gens-là souvent devaient être repris à cause de certaines aptitudes. Mais il les gardait proches. Ensuite, il y avait les disciples. Et on peut calculer les 12 et les 70 aussi. Mais c'était son disciple-là qui était rendu là. Et ces gens, souvent, étaient seulement au niveau de l'enseignement. Ils étaient prêts, mais ne partageaient pas nécessairement le cœur de Jésus comme Jean pouvait le partager. Et ensuite, il y avait la foule. Encore un autre clic. Je vais juste amener un point dans vos relations, parce qu'au fil des années, ça a été un peu, je vous dirais, naturellement, on va avoir du monde qui pense comme nous et qui cherche les mêmes buts que nous. Mais en réalisant comment que Paul définit comment que le Saint-Esprit fonctionne dans Corinthiens, Il dit que le Saint-Esprit donne des dons différents à chacun. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on pense pareil et qu'on voit toutes les choses pareilles. Si on se fait seulement s'assembler avec des gens qui pensent comme nous, ça va être difficile de rester aiguisé. Si on décide de tout émousser, on va tout être émoussé ensemble, puis on va penser qu'on s'aiguise. C'est important que vous ayez des gens qui pensent différemment que vous, mais qui poursuivent les mêmes buts que vous. Une équipe, l'Église apostolique, c'est des dons différents, avec une vision différente, avec une drive différente, mais qui amène le fait que chacun poursuive le but et qu'il se complète. J'aime être complété. J'aime travailler avec mes amis, j'aime travailler avec ma femme. On est tellement contraires, tellement différents. C'est incroyable. Ça a été des heures et des heures et des heures et des heures de confrontation jusqu'à temps qu'on comprenne que la différence était bonne. Quand on a compris qu'on scorait dans le même but, on a commencé à se faire des passes. Puis là, ça a commencé à être le fun. On a commencé à scorer on a commencé à gagner des victoires. On a commencé à avoir du fun, aller sur la glace. Puis quand on rentrait dans la chambre, tu pouvais savoir qui avait gagné et qui avait perdu parce que le party était dans la chambre. Et ça, c'était important de comprendre que la différence, on doit être entouré de gens qui pensent différents que nous, mais qui poursuivent le même but. Dans Proverbe 24:6, qui dit « Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Vous devez, dans vos relations, vous devez rechercher ceux qui vont vous dire ce que vous devez entendre et pas seulement ce que vous avez envie d'entendre. Les bons conseillers vous disent la vérité. Les mauvais amis vous flattent, mais pensent le contraire. Des gens qui ne te disent jamais que tu dois te reprendre et que tu dois te remettre à un niveau à la hauteur de ta version que Dieu t'a créée, c'est un ami. Celui qui tolère que tu sois imparfait, mais qui te permet de te critiquer et d'avoir des doubles pensées, c'est pas un ami, ça. Sauf que la question, c'est de dire, est-ce que vous êtes prêt à être l'ami de quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêt à parler dans la vérité, mais dans l'amour? Reprends avec douceur. C'était des années où c'était difficile. Parce que j'avais de la difficulté à entendre la vérité sur ma vie, parce que je sentais que les gens me disqualifiaient, parce que je sentais que les gens étaient encore une façon de me rabaisser, puis encore de me dire que je n'étais pas à la hauteur. Mais la journée où est-ce qu'on a commencé à construire nos relations axées sur l'amour, les mots ont changé, le cœur a changé. Et l'exhortation a commencé à devenir quelque chose de beaucoup plus constructif qu'amener sur une critique. Les relations doivent être axées sur les standards du royaume. Sinon, vous allez trouver un charant à quelque part puis vous allez vous y installer. Deuxième point, avant de finir celle-là, augmentez votre capacité de réseautage, augmentez votre réseau. Soyez toujours en recherche de nouveaux conseillers. C'est dans le grand nombre de conseillers que vient la sagesse. Travaillez pour augmenter votre grand nombre de conseillers. Deux, l'entraînement est un mode de vie. Dans Proverbes 2, 1, 5, chapitre 2, versets 1 à 5. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, il insiste-tu? Je pense que oui. Si tu la cherches comme l'argent et tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Proverbe 2, versets 1 à 5. L'entraînement est un mode de vie. Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Vous devez toujours rester dans un mode qu'on s'appelle formation continue. Vous savez, c'est un principe qui est important si vous voulez progresser. Progresser, c'est la capacité de résoudre de nouveaux problèmes qui empêchent la progression. Progresser, ça veut dire que vous élargissez, il y a un élargissement, puis il y a une croissance, il y a quelque chose qui active vers l'avant. Il y a une discipline de vie pour se mettre dans un contexte de progression. C'est que tu n'acceptes plus que les choses n'avancent plus. En cherchant le royaume de Dieu, tu réalises qu'il y a quelque chose qui fait qu'il doit avoir une évolution, il doit avoir quelque chose qui doit prendre place. Luc Gingras disait la semaine passée, quand on l'a eu comme invité, il dit « Vaut mieux chercher à être un apprenti dans les nouvelles choses que de vouloir rester un expert dans les anciennes choses. » Les choses anciennes sont bonnes, mais sont peut-être plus adaptées pour les choses nouvelles. Une des choses qu'on apprend dans la vie chrétienne, c'est que de passer de gloire en gloire fait que tu n'as pas besoin d'avoir un certificat pour avoir l'onction. Ou tu n'as pas besoin d'avoir un certificat, quelque chose pour être animé par l'esprit. Mais par exemple, il faut que tu sois formé pour être propre à l'œuvre. Et c'est souvent cette partie-là. « Ah, moi, je ne suis pas bon là-dedans. » Non, un fils de Dieu ne dit pas qu'il n'est pas bon là-dedans. Un fils de Dieu, il est bon à faire toute œuvre que le Père lui dit de faire. Ne pas accepter d'être bon dans quelque chose, c'est de réduire la vision que Dieu a sur ta vie. Dieu a dit, il n'y a rien que vous vivez que vous ne soyez pas prêt à, que vous ne soyez pas équipé pour le surmonter. Il n'y a rien qui est au-dessus de vos forces. Je vous ai appelé à régner. Si tu règnes, tu règnes. J'ai fait de vous des rois et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Mon problème, c'est pas que ça est plus grand que moi, c'est que je n'ai pas la vérité pour être capable d'établir l'autorité nécessaire pour régner sur cette chose. Régner ne veut pas dire dominer. Régner ne veut pas dire dominer. Régner ne veut pas dire que vous prenez tout pour vous en premier, puis après ça, ce qui reste va au restant. Ce n'est pas ça. Régner, c'est comme Christ a régné, donnant sa vie, élevant les autres, faisant en sorte de partager sa royauté. Si vous régnez avec les principes de ce monde, vous allez avoir peu de succès. Parce que vous régnez avec des lois qui ne viennent pas du royaume. Rapidement, j'ai appris que pour être en mesure d'évoluer, de progresser, je dois devenir responsable. Et ayant la responsabilité d'une chose, j'en détiens l'autorité. Mais moi, je viens d'une famille et de plusieurs générations, je crois, où qu'on critique les responsabilités. Parce que notre but à nous, ce n'est pas d'être responsable, c'est de trouver c'est qui le responsable. C'est qui a fait ça? Puis là, tu le cherches, c'est de sa faute! Bien, si c'est lui qui a le pouvoir de faire les choses, c'est lui qui a l'autorité. Donc, moi, je viens d'une culture où ce qu'on critique. Mais on ne veut pas être responsable parce qu'on se dit, si je suis responsable, tout le monde va me critiquer. Enfin, je ne veux pas être critiqué, enfin, je ne veux pas être responsable, mais je veux garder le pouvoir de critiquer. Mais par exemple, je suis tout le temps victime de, parce que je n'ai aucun contrôle sur ma vie, parce que tout le monde a des responsabilités sauf moi. Et tout le monde, je suis tributaire de tout ce qu'ils font parce que je leur ai donné l'autorité de faire plus que ce que moi je peux faire. Fait que je me retrouve tout le temps avec la queue du chien. Et je priais, puis je disais, Seigneur, c'est pas normal qu'on est appelé à régner. Puis écoute, c'est tout simplement si on ne s'en bat pas dans nos églises. Je disais, pourquoi qu'on n'arrive pas à régner comme des Joseph? Pourquoi qu'on n'est plus des Moïse? Où est-ce qu'ils sont partis, cette race d'hommes-là, qui était capable de se tenir devant des rois, des Daniel? Je disais, écoute, on a-tu perdu le gène au départ? Y a-tu quelque chose qui s'est passé? Le Seigneur dit, es-tu prêt à apprendre? Puis là, ben, t'avances, ça vous appelle en avant. C'est ça, Seigneur, utilise-moi, je vais être une voix pour ma génération. En tout cas, vous savez, on a tous été pleurés en avant. On a tous, puis c'était sincère. Je ne pense pas qu'on était des hypocrites. Mais je pense que le Seigneur dit, si tu es prêt à être formé, si tu appelles la sagesse, si tu appelles l'intelligence, si tu la poursuis comme l'or et que tu la poursuis comme un trésor, tu vas avoir l'intelligence pour comprendre, je vais te révéler des choses. J'avais 30 quelques années, j'arrive dans le bureau de mon boss, je travaillais dans un centre jeunesse à cette époque-là, puis ça allait très mal au niveau du service de sécurité. On n'arrêtait pas de faire des gaffes, parce qu'on travaillait tout croche. C'était difficile parce que le monde clinique avait beaucoup de critiques sur notre service. Fait que moi, je rentre, héritier de toute une expertise en critique, je rentre dans le bureau de mon boss, puis je commence à faire, écoute, je fais l'étalage de tout ce qui ne marche pas dans le service. Pendant 20 minutes de temps, écoute, il y avait de l'expertise au pouce carré là, non? Et quand j'ai eu fini, il me regarde, puis il m'a dit, OK. Il dit, Joanne, je t'écoute, non? Il dit, je veux juste savoir, là, avant qu'on y aille plus loin, là. Il dit, toi, es-tu dans le problème ou tu es dans la solution? Là, j'ai dit, ben non. Écoute, un expert en critique comme moi, il reste dans la solution, petit grain, là. T'sais, écoute, là. Je ne suis pas venu ici, je ne me suis pas déplacé. Il dit, OK. Il dit, bon, ben, il dit, regarde, le projet est assez simple. Il y a à peu près 250 agents dans Montérégie. Ben, je veux que tu les formes pour qu'ils deviennent top-notch en sécurité. Là, je dis, ben non, je ne peux pas faire ça. Je ne connais rien en sécurité. Il dit, mais si tu connais rien en sécurité, pourquoi tu me fais perdre mon temps? Alors, retourne sur le plancher. Là, il dit, t'es-tu prête à faire le changement? T'es-tu prête à être dans le changement ou t'es prête encore à venir semaine après semaine critiquer? Il dit, moi, je te paye pour que tu travailles. Puis là, en ce moment, tu viens. Il dit, si t'es pas satisfait, va ailleurs. Mais si tu veux changer les choses, viens. Et ça a été la première fois où le Seigneur m'a dit, t'as ta chance, le grand. Fils, t'as deux façons. Soit que tu t'assis, que tu prends ça comme un homme, ou tu requittes, puis tu retournes comme un enfant, là. Puis j'ai, écoute, d'instinct, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Si ça marche pas, je vais quitter la job. Puis ça a été une formation. Littéralement une formation, j'ai dû apprendre. Je ne connaissais rien. J'étais un agent. J'étais un simple agent. Je ne connaissais pas grand-chose dans le milieu de tout le service de sécurité, mais j'ai dû apprendre les lois. Les lois concernant les centres, les lois pour les interventions cliniques. J'ai dû apprendre les lois au civil, les lois au criminel. J'ai dû apprendre à connaître tous les objectifs puis toute la mission d'un service de sécurité. J'ai dû mettre en place des équipes de développement pour commencer à emmener une pratique qui est conforme aux lois que j'avais étudiées. Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans de temps, on a étudié, on a mis en place. Et c'est super. Parce que là, en ce moment, la vision que j'avais de comment un service de sécurité pouvait se mettre en place, j'y participais. J'étais responsable. Et on a commencé à mettre une formation, on s'est dit une formation de 2 jours. On va déplacer 250 agents qui vont être payés, nourris, pour une formation de 2 jours. On y va. Correct. Ça va coûter combien? Et c'est là de dire, as-tu l'autorité de débloquer les fonds? C'est 750 000 qu'on parle. Il y a 1 an, j'étais celui qui critiquait sur un plancher en donnant un pointeur que tout le monde était responsable sauf moi. Et je donnais le pouvoir de tout le monde de continuer à travailler dans leur mauvais comportement. 2 ans plus tard, j'étais responsable et j'étais critiqué parmi 250 agents. Mais j'avais l'autorité de changer et plus que j'avais l'autorité, j'avais la capacité de débloquer des fonds de 750 000. Pour établir une formation continue. Ce que je veux vous dire, c'est de dire, si vous n'êtes pas prête à être formé pour les choses nouvelles, vous ne progresserez pas. Votre environnement ne pourra pas changer. Et vous dites, ah oui, mais dans le milieu, ce n'est pas spirituel. Oui, c'est spirituel. Dieu veut qu'on amène la justice. Il y avait des pratiques qui étaient mises en place où le fait qu'on n'ait pas de formation faisait qu'il y avait beaucoup d'abus qui se posaient au niveau de la clientèle qu'on desservait. Puis tout le monde était irrité parce qu'on travaillait d'une façon qui n'était pas coordonnée. Lorsque le Seigneur m'a mis en place et que j'ai pu établir, mon but à moi, c'est de dire, Seigneur, il faut qu'il y ait une justice ici dans la façon qu'on travaille. Il faut qu'on arrête les abus. Il faut qu'on arrête d'exposer les agents à des situations dans lesquelles ils se blessent continuellement. C'est-à-dire, eux autres ici, ils ont besoin d'être sécurisés. On a besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière et le sel. On a mis de la saveur et on a mis de la lumière dans cette situation-là. Et mes patrons et le monde avec qui je travaillais, savait que j'étais quelqu'un, parce que je parlais littéralement, de dire, il faut mettre les choses en lumière. Il faut qu'on travaille d'une façon. Et j'étais connu justement parce que j'avais un côté pratique de la parole de Dieu dans ce qu'on appliquait. J'ai dit, ces enfants-là ont besoin d'être servis de façon à ce qu'ils soient honorés et non pas rabaissés dans leur mauvais comportement. Alors, on va utiliser une gradation d'intervention qui va les honorer. On va les encourager à faire les bons choix au lieu de les menacer par rapport à leurs mauvais choix. On va mettre dans leur esprit ce qu'ils doivent entendre et non pas ce qu'ils entendent depuis qu'ils sont jeunes. Calme tes nerfs, arrête de crier, blablabla. Non, commence à investir. Commence à investir ce que tu veux voir comme résultat, puis Dieu va faire en sorte qu'il va faire naître en eux des nouveaux résultats. Nomme les choses qu'ils n'ont jamais entendues. Tu es capable, le grand. Là, tu vas t'en reprendre. Tu es capable d'en reprendre. Tu es capable d'en reprendre. C'est un discours qui est amené. On a passé de 1500 interventions physiques dans l'ensemble de Montérégie à 500. Le tiers en 2 ans. On a réduit, on était sur pratiquement en tutelle avec le CSST, on a réduit les blessures causées par les interventions, on a réduit ça à un niveau des plus bas dans l'ensemble du Québec. Dieu a besoin que vous lui laissiez la chance de vous former dans votre milieu pour que vous puissiez faire la différence. Troisième point, gardez l'esprit de précurseur. Vous devez garder votre tranchant. Vous devez être de ceux qui vous devez accepter d'aller en premier. Vous devez prendre la responsabilité d'aller en premier. Il faut que vous soyez des Lucky Luke du pardon. Plus vite que votre ombre. Quand vous faites quelque chose de mal, tu ne résistes pas. Tu dis, je ne laisse pas de la place à l'ennemi pour venir mousser ma lame. Au contraire, dans le pardon, je vais l'aiguiser encore davantage. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, OK, soyez des précurseurs de dire, moi, je suis prêt à prendre la responsabilité parce que je crois que je peux faire la différence. Tu veux m'accuser? Vas-y. Parce que moi, j'ai le pouvoir de pardonner. Puis je vais te gagner par le pardon. Parce que toi, tu as connu seulement ça, la critique puis l'accusation. Je viens de ce monde-là. Je vais te pardonner 700 fois, 799 fois à l'infini. Parce qu'à chaque fois que je te demande pardon, je gagne ton cœur. Parce que c'est comme ça que Christ a gagné le monde, l'humanité à lui. Par le pardon des péchés. La plus grande puissance qu'on a est ici. Soyez des précurseurs. Soyez des précurseurs à quand il y a un problème. De dire, hey, on peut-tu prier et chercher la face de Dieu? On peut-tu aller dans ces circonstances-là? Soyez de ceux qui se tiennent dans la solution. Arrêtez de vous laisser gagner dans le problème et dans l'irritation. C'est normal que les choses devant vous ne brillent pas parce que c'est vous qui brillez dans cette situation-là. Arrêtez d'avoir des attentes par rapport aux choses qui sont devant vous. Le monde est injuste parce qu'il est sur une coupe de l'injustice. Vous êtes la justice. Écrivez de dire, aujourd'hui, les gens vont rencontrer une justice. Je m'en viens. Aujourd'hui, les gens vont être bénis. Je m'en viens. Aujourd'hui, je vais tenter de faire en sorte de donner un bon mot pour faire en sorte que peut-être un collègue va avoir une promotion. Je vais faire en sorte que mon boss va dire, hey, tu sais, ton plus grand fan, il est ici ce matin. Moi, je ne suis pas en train de te servir toi, je suis en train de servir Christ à travers toi pour te gagner. J'espère qu'en me donnant mon salaire, que je sois en mesure de te bénir pour que tu puisses en gagner encore davantage. Je suis là pour que tu prospères. J'ai une pensée savoureuse pour tout le monde qui m'attend, qui marche alentour de moi. Et pour ça, mes amis, vous devez avoir du monde qui pense comme vous alentour de vous, qui ne pense pas nécessairement comme vous, mais qui poursuit le même but d'être savoureux et d'être tranchant. Quand tu arrives avec tes problèmes, il t'écoute, il dit « Je te laisse 30 secondes, ben, c'est correct, tu ventiles. » Mais après ça, je vais dire « Qu'est-ce que tu vas faire, hommes et femmes puissantes? Comment tu vas emmener le royaume dans cette situation-là? Ne te laisse pas dérober tes promesses et ta bénédiction. Comment tu vas devenir responsable dans cette situation-là? » Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, ton plan d'amour pour l'humanité, on en fait partie pour l'emmener comme Jésus l'a emmené. Seigneur, rends-nous des gens... Seigneur, l'intelligence qui vient de ton royaume, donne-nous la capacité de voir avec un plein discernement, tu sais, une clarté dans nos yeux pour qu'on puisse voir les choses telles qu'elles sont. Pour plus se laisser leurrer et de se mettre dans une position où on est en train d'être en réaction au lieu d'être en action. Seigneur, on est en action par rapport à ce que le ciel, Seigneur, veut se révéler à travers nos vies. Rends-nous flexibles. Seigneur, s'il y a des blessures encore dans nos vies qui nous empêchent de te laisser agir, mets-les en lumière. Seigneur, s'il y a des fausses pensées, des faux raisonnements qui nous empêchent de voir les choses à travers le royaume, Seigneur, viens nous révéler, on va être à l'écoute. Seigneur, je te promets que je vais faire attention à mon environnement, que je ne laisserai pas des gens qui vont venir me détourner de ma terre promise, de me détourner des promesses et du plan que tu as pour ma vie. Seigneur, je ne veux pas rejeter les gens, mais je veux tout simplement avoir une capacité de ne pas me laisser influencer pour perdre ma déclaration te concernant. Seigneur, je veux te suivre toute ma vie. Seigneur, j'ai dit oui à ton appel. J'ai dit oui à devenir, Seigneur, un ambassadeur du royaume. J'ai dit oui de faire en sorte que ma vie te soit utile, peu importe ce que ça va coûter. Seigneur, je sais que tu me protèges, je sais que tu mets ta faveur sur ma vie. Enlève les craintes qui peuvent encore résister dans mon cœur, qui m'empêchent d'avancer avec une pleine assurance. Seigneur, tu as dit qu'on serait comme des fleuves d'eau vive qui jailliraient de nos seins vers l'extérieur. Seigneur, je veux que ma vie soit inspirante pour les gens de ma maison, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes amis, pour mon église. Mais Seigneur, je veux briller jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, apprends-moi à être flexible. Apprends-moi à discerner les lieux de charan, Seigneur, qui peuvent devenir des lieux tellement réconfortants parce que j'ai laissé une déception gagner mon zèle et ma ferveur. Agis, Seigneur, dans ces temps. Viens, Seigneur, élever nos cœurs pour qu'on puisse, Seigneur, te connaître d'une façon encore plus fraîche et plus cœur à cœur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Amen.